Comment il va, Alex Leblon, planificateur financier?
Ça va, vous autres?
Ça va. Hey, les notes viennent de sortir pour les joueurs les mieux cotés sur le prochain jeu de la NHL. Okay. NHL 25. Es-tu prêt?
Vas-y.
Qui a les plus grosses notes, là?
Je pense que c'est Panarin.
Oui.
Assurément, McDavid.
Panarin est à 95%. Et David Pastrniak, des Bruins de Boston, a aussi une note de 95.
Ouais.
On dit que Kucherov a été coté en première position et Pastrniak deuxième, mais les deux ont ce qu'on appelle un overall rating de 95. William Nylander, 91. Clayton Keller, 89. Mikko Rantanen, 93. Mark Stone est à 89. Et, je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus, combien a eu Cole Caulfield? Tu l'as-tu?
Moi, je l'ai vu passer.
Moi, je pense que c'est dans le haut des 80, 87, 88.
Ils l'ont mis à 88.
Quand même.
Ils l'ont mis à 88. C'est un bon départ.
Je pense qu'à partir de 88 à NHL, t'es dans l'élite. Là.
Hein? Oui. Je pense que oui.
Moi, je pense juste aux joueurs du Canadien, que c'est leur tournoi de golf aujourd'hui. Là. Puis là, ils ont tout ça sur leur téléphone. Puis ils prennent tout.
Peux-tu vous conter une anecdote
oui.
De overall? C'est mon entrevue préférée. tu sais quoi?
Oui.
OK. Oui. Peux-tu compter ça?
Oui, c'est drôle.
OK. À l'ancienne station.
Oui.
Fait une entrevue à un moment donné avec c'est Rich Canim, Jean-Francis oui. Blais. Puis les deux, on trippe sur leur hockey solide. Là. Fait que là, puis Rich, il avait tous les numéros de tout le monde.
Vous trippez les deux sur le hockey, puis vous trippez les deux sur les jeux de hockey.
Ouais, méga geek, là. Puis là, à un moment donné, Rich, il me dit, « Hey, je viens de booker Mike Bossy. »
La légende!
La légende Mike Bossy, tu sais, il faisait TV Sport, tout ça. Puis on réussit à le booker. Fait que là, c'était écœurant, parfait, là, on a hâte. Prépare l'entrevue pour Mike Bossy, puis cette année-là, c'est la première année que EA Sports avait racheté les légendes dans le jeu.
Pour leur donner des notes.
Jean Béliveau, etc. Fait que là, l'entrevue, ça va bien. Puis là, à la fin de l'entrevue, Rich se dit, « Hey, je vais demander à Mike Bossy, c'est quoi son... Combien il se mettrait dans son overall? » Fait que là, Rich part. Puis il dit, « Hey, M. Bossy, savez-vous c'est quoi votre overall à NHL? » Puis, pas de contexte, là. Mike Bossy, il est comme, « Quoi? » Puis là, à partir de ce moment-là, tu fais juste t'enfoncer. Fait que là, Rich, il est comme, ouais, maintenant, tu sais, EA Sports, puis là, le jeu, puis là, ils ont donné un. Il est comme, OK. Puis là, ça finit, Rich, il dit, ben, vous êtes comme, je sais pas, 92 overall. Il dit, OK. C'est bon. L'entrevue finit de même.
Ah, mon Dieu!
Là, les deux, on veut mourir.
Tu sais, t'as une idole au bout du fil. Tu veux transmettre ta passion du hockey. Tout ce que tu réussis à transmettre, c'est un malaise.
Puis la pire affaire, c'est que, je sais pas moi, 6 mois après, 1 an après, on réanime la même émission ensemble. Là, on se dit, hey, on book Mike Bossy. Fait que là...
Bon, il parle juste de jeux vidéo.
J'appelle Mike Bossy. Son téléphone.
Ouais.
Il répond. J'ai dit, hey, on s'était parlé l'an passé, ça, faire une entrevue. Puis il me dit, comme là, je pitche l'entrevue, comme un silence. Puis il dit, j'ai assez donné pour votre citation.
Ça, je le savais pas, par exemple.
Ouais. Super gentil, le monsieur, là, mais il avait pas aimé la question.
It's in the game.
Ouais.
Alex, on va parler de la succession, le pire aspect de la planification financière.
Ouais, c'est vraiment rough, la succession. Le monde qui fait ma job, là, on passe beaucoup de temps sur tout ce qui est placement, fiscalité,
retraite. Alors que la succession, c'est une fatalité. Tout le monde va mourir à un moment donné.
C'est une fatalité, puis il y a plusieurs personnes dans les gens qui écoutent présentement qui vont être liquidateurs d'une succession, ce qui est assurément un des cadeaux les plus empoisonnés qui existent.
Je me suis fait demander par mes parents si ça me dérangeait. Fait que faut-tu que je dise non?
Ouais, ça te dérange.
Ah, t'es sérieux?
Refuse.
T'as plus, ce sera pas long, je vais te texter maman, c'est sa fête, elle sera pas contente.
Ben non, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas le choix que quelqu'un le fasse, là. Puis c'est pas si pire que ça dans des cas simples, là, mais c'est une job qui peut être faite tout croche, mais ça a des conséquences assez graves si jamais c'est fait tout croche.
Puis même pour un dossier simple, c'est long puis c'est compliqué, là.
Une succession, là, simple, là. Mettons qu'il n'y a pas de résidence secondaire dans un autre pays. Puis, tu sais, vraiment, personne qui avait un peu de placement, une maison.
Mettons que j'ai pas vendu le DAG à ma femme, mettons.
Ouais, genre.
OK, c'est beau,
ouais. Ouais, t'as pas de compagnie de... Non, ça va pas ça. Puis, tu sais, ça peut prendre 12 à 18 mois, là. Puis ça, c'est quand c'est seamless, là. Ça va bien, là. Fait qu'imagine quand on rajoute un peu de complexité là-dedans.
12 à 18 mois, régler une succession?
Avant que, tu sais, tous les actifs du défunt soient transférés aux héritiers puis qu'on soit capable d'aller à la caisse puis dire, OK, on ferme le compte.
C'est respectueux, on dirait.
Tu sais, mettons, tu viens de perdre un proche, là, t'as comme d'autres choses, on dirait, à faire que te lancer là-dedans puis t'emmerder avec ça pendant 18 mois. Là.
Ouais. Là où c'est problématique, puis on arrivera vraiment au rôle du liquidateur, là, c'est les recherches des fois. Disons que, puis là, je veux pas mettre la faute sur le défunt qui vient de mourir, là, mais souvent, il y a les parents. Puis là, on prend l'exemple de des personnes âgées qui décèdent, là, parce que, tu sais, si t'as 32 ans, puis ta succession n'est pas réglée, je suis comme, je peux comprendre, là, mais si t'as 83, t'es supposé avoir pensé à ça, tu sais. Ce qui arrive souvent, c'est que les parents ne communiquent aucunement avec leurs enfants adultes. Ils ont-tu une assurance vie? Ils ont-tu des placements? Ils restent-tu une hypothèque? Ça fait en sorte que quand le décès survient, ben les enfants ne savent pas. Tu sais, il y a des assurances vie qui ne sont jamais réclamées, là. Parce que l'assureur, il devine pas que t'es mort, là. Si l'assurance est déjà payée, puis il y a plus de...
Fait que c'est toi qu'il faut qu'il contacte tout le monde, là.
Ben, moi, des fois, tu sais, si je sais qu'il y a une assurance, je vais contacter tout le monde. Mais souvent, si le parent, en 82, il a pris une assurance vie, puis il l'a jamais dit à personne, l'assureur, il devinera pas qu'il est mort, là. Fait que ça se peut que lui, il ait payé toute sa vie ou pendant 20, 30, 40 ans.
C'est juste non réclamé, là.
C'est non réclamé.
Mais voyons donc.
Fait que tu sais, ça arrive beaucoup des affaires de même.
En pourcentage, c'est quoi les cas compliqués à peu près versus les cas qui sont simples? C'est-tu du 50-50? Pas à ce point-là.
Ben, tu sais, même un cas simple est relativement complexe parce que, tu sais, le liquidateur, là... Lui, il a une job, là. Il travaille dans un bureau de whatever, et c'est pas son domaine la majorité du temps. Fait que, puis je te donne un exemple, même, mettons, mon père, il a été liquidateur de la succession de quelqu'un, puis il est là-dedans, là. Il a fait ça pendant... Puis même dans ce cas-ci, c'est compliqué, tu sais. Fait que, puis il connaît le jargon, il sait s'il y a un problème, il y a un avocat sur le dial, tu sais, il sait qui appeler. Puis même ça, c'est complexe, puis c'est long, là. Fait que, tu sais, il y a moyen de le simplifier, mais là, vraiment en ayant des communications claires de « OK, voici telle assurance que j'ai est à telle compagnie, voici tel placement. »
Mettons, etc. Je dis oui à ma mère, je la connais, là, probablement qu'elle va me faire toute une liste de ses dossiers.
Oui, parce que c'est ta mère.
Parce que c'est ma mère, ouais. Effectivement. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ça, je peux tout qualifier ça comme une bonne situation, entre guillemets. Là.
Oui, vraiment. Parce que moi, j'ai la conversation des fois avec des clients plus âgés. Puis il y a comme un tabou. Ils veulent pas le dire à leurs enfants. C'est quoi qu'ils ont.
OK.
Mais...
Pour pas que les enfants souhaitent leur mort.
Oui, ou juste pour le tabou. C'est
on
tellement...
dit pas ça. On parle pas de ça, les finances.
On parle pas de ça, ouais. Mais ce que je leur dis, c'est ils vous aimeront pas. Là, parce que le liquidateur, quand il va arriver, il y a 11 étapes. Là. On passera pas les 11, là, mais lui, il a de la job. Là. Puis s'il faut qu'il cherche chacun de ces aspects-là, ça de quoi, il n'aimera pas ça. Là.
Ben justement, là, prenons quelqu'un comme exemple. Là. Alex Leblond, je t'annonce, je suis décédé. Qu'est-ce qui arrive?
Ben là, il y a un petit party, là. Puis après ça...
Ah ouais, chez qui?
Ben tu sais, il y a comme trois, puis on s'entend, je le simplifie un peu, c'est pour les besoins de la cause. Ouais. Là. Mettons que ce décès-là survient, il y a trois affaires qu'il faut regarder.
Mm-hmm.
Premièrement, là, il y a une disposition réputée de l'ensemble des biens du défunt.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça, ce que ça veut dire, c'est que, mettons que le défunt, il s'est acheté un chalet en 82, qu'il décède aujourd'hui, qu'il ne l'a jamais vendu, bien, il y a une disposition réputée. Il n'est pas vendu pour de vrai, mais il y a comme un gain d'impôt latent là-dessus qui n'a jamais été payé. Fait qu'il est payé à ce moment-là.
Okay.
Fait que sinon, l'impôt ne se paierait jamais. T'sais. Fait qu'il y a un paquet d'affaires que tu peux rouler au conjoint, fait que retarder l'impôt au décès du conjoint. Mais tu sais, au Québec, là, on n'a pas d'impôt sur le décès à proprement dit. Ça arrive dans bien des pays là, que le fait de décéder génère un impôt. Techniquement, on n'en a pas au Québec, mais tu sais, le fait de décéder génère une disposition réputée qui, elle, génère de l'impôt. Fait que c'est un peu la même affaire. Là.
Ça n'a juste pas le même nom.
Québec solidaire voulait rajouter un impôt sur le décès en plus. Fait que là, il y a double imposition. Fait que là, tu sais, ça, c'est de la sémantique, là, mais techniquement, on n'en a pas. Puis tes biens sont cédés à la succession. Fait que la succession, elle, c'est une entité qui existe nouvellement, qui peut être poursuivie, qui a des obligations légales, qui peut être représentée par n'importe qui.
Le liquidateur, là, il est désigné dans ton testament?
Idéalement.
Idéalement?
Ouais.
Ouais, parce que sans ça, les problèmes commencent.
Les problèmes commencent, mais normalement, quelqu'un qui le fait bien, là, qui fait un testament avec un notaire, va avoir un liquidateur désigné dans le testament.
Okay.
Idéalement, ta mère a bien fait. Véro, tu demandes avant de donner ce cadeau empoisonné-là. Là.
Pauvre Vel, je prends des notes là-dessus.
Vois-tu, moi, je ne lui ai pas demandé, puis elle est liquidateur dans mon dossier. Elle est bien organisée. Oui, tu vas faire de la belle job. c'est une joke.
Non, des fois, ça me surprendrait même pas.
Qu'est-ce qui arrive si tu décèdes et que tu n'as pas fait ton testament?
Ouf, c'est le gouvernement qui va décider de la disposition de tes biens.
Okay.
Il y a quelque chose qui s'appelle le système de dévolution légale. Fait que, t'sais, parce que dans la première job, en fait, une des premières jobs du liquidateur, c'est de chercher le testament. Fait que lui, il va aller chercher sur les différents registres qui existent. Puis s'il n'en trouve pas de testament, il n'y a pas ça dans le tiroir, il n'y a pas ça sur le registre, mais là, les biens, mettons, le 500 000 qu'il y a en REER, puis la maison, puis faut que ça aille à quelqu'un. Puis ça, c'est pas les héritiers qui décident entre eux autres.
Les registres, c'est le notaire qui inscrit un testament à un registre? Ou
Ben, s'il est notarié, oui, il va être sur le registre, il va être inscrit. Et ça peut être des testaments devant témoin, ça peut être, il y a un paquet de manières de faire un testament. Okay. Là. La recommandation étant toujours de le faire notarié. Mais mettons que la personne n'a pas de testament, bien là, c'est le gouvernement qui va décider.
C'est lui qui décide, c'est qui le liquidateur ou le gouvernement devient le liquidateur?
Non, je te parle pour la disposition des biens.
OK.
Fait que tu sais, mettons, là, il va regarder, il y a un tableau. Est-ce que la personne a des enfants? Mm-hmm. Si oui ou non, bien si oui, il va avoir une disposition entre ces personnes-là.
OK. Puis
là, tu as à peu près, je pense, c'est 8 degrés de succession différents. Fait que ce qui arrive dans ce temps-là, c'est, on s'entend, là, il va pas aller donner ça au troisième voisin. Là. Ça reste dans l'entourage familial. Mais mettons que toi, tu parles plus à ton père ou tu parles plus à telle personne dans la famille pour X, Y, Z raison. Je vous confirme que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Là. Ben, cette personne-là a tous les droits si jamais ça vient à la porte.
Chicane pas chicane.
Elle a les droits sur ces biens-là. Là.
Tu l'as abordé brièvement. Est-ce qu'un testament fait sur le coin d'une table, mais avec des témoins, c'est légal, même si c'est pas notarié?
Ça, c'est drôle parce que quand j'étais à l'université, là, il y avait un prof de tout ce qui est aspect légaux, là, il avait mis un exemple vraiment gore là, dans un livre là, pour expliquer qu'un testament ne devait pas être notarié. Il disait, puis là, c'est pas une recommandation, ça. Là. Puis je suis pas sûr que ça passe devant un juge tant que ça, là, mais il disait, mettons que tu te fais poignarder, puis t'es dans une pièce, là, puis t'écris avec ton sang, tes dernières volontés, puis tu le signes. Il dit, ça pourrait passer comme un testament.
Parce que tu l'as fait de ton vivant, puis...
Ouais, mais tu sais, mettons qu'on reste dans des affaires qui se peuvent.
Mettons qu'on n'est pas d'un livre de Stephen King, ouais, là, mettons. Là.
Mais c'était vraiment un exemple d'un livre d'université, ça.
OK.
Tu sais, tu peux faire un testament devant témoin. Moi, j'ai ça, mettons. Le testament devant témoin, là, ça veut dire que tu vas... C'est le même principe. Là. C'est voici ce que je veux qu'il arrive en cas de décès, blablabla. C'est juste qu'il faut que ce soit signé par deux personnes qui n'ont aucun rapport avec le testament.
Okay.
Fait que, ça ne peut pas être signé par ta blonde si tous tes biens s'en vont à ta blonde. Le désavantage de ça, c'est qu'il n'est comme pas homologué d'office. Là. Si tu fais un testament avec un notaire, ben, automatiquement, il va être inscrit et tu n'as pas besoin de le faire valider.
Pas puis...
Si c'est un devant-témoin ou un holographe, comme on l'appelle, ben là, quand tu décèdes, ben, ton liquidateur, il va devoir sortir 2500$ à peu près pour aller voir la cour puis le faire homologuer.
Oh mon Dieu, OK.
Si t'as une blonde ou un chum que t'aimes beaucoup puis que t'es pas marié, c'est important que tu te fasses un testament.
Vraiment.
Oui.
Testament, puis j'ai encore, il y a 15 minutes, là, j'avais la conversation avec quelqu'un encore. Si vous êtes conjoint de fait, vous n'existez pas légalement l'un pour l'autre.
C'est pour ça que Phil Collins s'est marié. C'est pour ça que Paul McCartney s'est marié.
Paul McCartney qui s'est marié sans prenup quand même à 800 millions de valeur nette.
Ça a coûté de l'argent.
Pas pire.
Non, mais sérieusement, il n'y a aucune façon de remédier à ça post-mortem, de dire « Ah, mais mon Dieu, ça a été sa conjointe de fait pendant 25, pendant 30 ans, ou l'inverse. »
Ben les héritiers pourraient toujours bien dire « Ben regarde. »
On va y en donner un petit peu.
On va y en donner un petit peu,
mais c'est à leur discrétion.
C'est à leur discrétion. Puis okay. Encore là, on a vu des cas, là. Vous pensez que votre famille est unie, elle l'est pas quand il y a 500 000 piastres en jeu. C'est malheureux, mais c'est une réalité qu'on voit time and time again. Là,
je l'ai vécu près de moi. Il y a des gens dans la famille qu'on voit plus à cause d'une chicane de succession. C'est pas beau, là. C'est pas beau, puis ça laisse des... C'est ça. Ça laisse des traces souvent permanentes. Les dettes, ça laisse-tu des traces permanentes, ça? Puis c'est une question qui revient souvent, là, veux pas, là. 150 000 piastres, mettons, de solde sur une hypothèque, puis que t'es le seul héritier. Est-ce que t'hérites du 150 000 piastres, puis il faut que tu le payes?
Oui et non est la réponse. Là. Puis il y a comme un mythe par rapport à ça. Là. Les gens pensent que si jamais ils héritent de quelque chose, ils vont devoir payer l'ensemble des dettes.
Ouais.
Les subtilités sont... C'est plus complexe que ça. Là. C'est le concept de l'acceptation ou de la renonciation de la succession. Une fois que le liquidateur t'appelle et dit « Hey, ben voici, toi, tu as droit à... » Whatever, 100 000 $ plus.
OK, il te donne le détail avant de te demander si tu veux ou pas. Là.
Ouais.
Ben là, sans ça, on joue à l'œuf ou la poule.
Je
c'est
sais,
chenin
mais je
en
sais pas, moi, j'ai
là.
Jamais vécu ça.
Le principe, c'est que, puis on s'entend, il y a toujours des subtilités, là, mais tu peux pas faire de cherry picking. Tu peux pas dire, ben regarde,
je vais prendre la maison, je vais laisser la carte de crédit.
Je vais prendre le chalet, mais pas les cartes de crédit, tu sais. Soit t'acceptes la totalité.
Fait que mettons que t'as une terre familiale, si t'en refuses parce que tu veux pas être dette, tu perds vraiment tout souvenir qui vient que ça. Là.
Ouais. Fait que c'est pour ça que, justement, quand...
C'est pour ça qu'on prend des photos, de...
Quand on parle ouais. à quelqu'un de 50 ans qui veut remettre sa maison sur 25 ans, pense à tes affaires, buddy, parce qu'ils t'aimeront pas. Tu sais, la logique, là, c'est que si il y a plus de dettes que la valeur de ce dont tu hérites, ben tu vas y renoncer. Par contre, ce que ça veut dire, c'est si toi, mettons, il y avait... Moi, je l'ai déjà vu dans un dossier, il y avait un beau piano, là, qui était dans la famille depuis des générations, mm-hmm. mais si tu refuses la succession...
T'as pas plus le piano.
T'as pas le piano, là. Tu peux pas faire de cherry picking. Fait que c'est pour
c'est
ça que...
C'est tout ou rien.
Tout ou rien, généralement.
T'as une note qui est inscrite en caractère gras et soulignée. Je te la lis, puis tu m'expliques. Surtout, ne pas utiliser les biens du défunt, car c'est une acceptation présumée de l'ensemble de la succession.
Si je donne un spectacle sur le piano...
Ouais, ben, t'sais,
si je vais au chalet et j'utilise la toilette, c'est à moi, ce chalet-là.
On s'entend. Il y a toujours le... Il y a toujours... Ben, pour vrai, d'après moi, là, donne-moi une semaine, je suis capable de trouver de la jurisprudence. Il y a quand même du stock, là. Mais tu sais, on s'entend, il ne faut pas virer totalement fou, là. Tu sais, généralement, tu as comme 6 mois de délai pour accepter ou non une succession. Mettons, reprenons l'exemple du chalet, parce que c'est souvent au chalet que la chaîne débarque.
Oui, ouais, puis que les chicanes pognent pour bien du monde.
Mettons que moi, là, regarde, la mère est morte, puis moi, là, elle habitait dans le chalet, puis là, elle n'est plus là, fait que je m'en vais dans le chalet 6 mois, puis regarde le bateau. La succession n'est pas réglée encore, là, mais moi, je suis dans le chalet, puis je m'installe là, puis je suis bien. Puis là, finalement, le liquidateur fait l'inventaire de la succession, on se rend compte que c'est bourré de dettes, c'est dans le négatif. Ben moi, si ça fait 6 mois que je profite des biens du défunt, ben une cour pourrait très bien statuer que c'est une acceptation implicite de la succession. Fait que je
c'est à
pas...
toi d'être.
C'est ça. On s'entend. Ça veut pas dire que ça va arriver demain matin. Puis mettons que tant que ta mère elle avait une brocheuse, puis tu vois, j'ai la brocheuse, on s'en fout. On s'entend, là. Mettons qu'on vit dans... Ben, techniquement, je peux pas dire on s'en fout, parce que c'est pas vrai.
Légalement, oui.
T'es pas supposé faire. Mais tu sais, si tu profites des biens du défunt, avant que tout ça soit réglé, tu cours après le trou.
Il y a un texto qui est rentré qui est quand même intéressant. La personne dit « J'ai marié ma femme qui a 2 enfants mineurs. À son décès, est-ce que les enfants héritent et le père gère ou c'est moi qui gère? » On n'a pas de testament encore, mais ils sont mariés.
Si vous êtes conjoint marié, tu sais, lui, il n'existe plus dans le portrait en principe. Là.
Même marié?
Ben non, mais l'ex.
OK, même si c'est le père des enfants.
À moins qu'elle l'ait laissé comme... bénéficiaire d'une assurance vie, ça, ce qui est possible. Là. Mais eux autres, là, c'est vraiment le conjoint marié qui compte. Pas qui t'a marié en 2007.
Pas celui avec qui t'as fait des enfants.
Qui t'était marié au moment du décès. Même si c'est en instance de divorce, quand
c'est pas fini.
Ben, j'en ai un dossier de même.
T'es pas sérieux.
Ah ouais.
T'étais marié au moment du décès, c'est ça qui compte.
Fait que, faire un bon film, ça.
Ouais.
Si ton ex est bénéficiaire de tes affaires puis de ton assurance vie puis t'as pas mis tes affaires à jour,
hey, ça, là, je le vois à au moins une fois par mois.
J'ai oublié de changer mes papiers quand j'ai changé de blonde.
T'as-tu vérifié tes freins récemment?
Pas une fois par mois que c'est l'ex qui reçoit le chèque. Là.
Ah,
mais
ouais.
Moi, chaque fois, je fais une rencontre de mise à jour. OK, c'est quoi tes assurances? Check donc les bénéficiaires. On check ça ensemble. Il y a toujours une ex quelque part. Si tu es marié et tu divorces, là, normalement, le divorce amène la nullité de la désignation, mais il n'y a plus personne qui se marie.
C'est ça.
Fait que mettons que tu es avec une fille, X, Y, Z, tu l'as laissée en 2015, tu n'as jamais changé tes papiers, t'as une police de 1 million sur ta tête, tu décèdes demain matin, tu te fais ramasser par un bus, elle reçoit un chèque de 1 million, puis elle a tous les droits là-dessus, techniquement.
Fait que c'est pas juste important, mettons, d'écrire ou de rédiger un testament. Faut que t'ailles le réviser, quoi, une fois par année, juste pour être sûr que tout est encore droit?
Là, c'est pas juste le testament, c'est tes polices d'assurance.
D'assurance,
c'est
ouais.
Si, mettons, il t'arrive quelque chose... Qu'est-ce qui va à... Tu sais, mettons, t'as des placements. Souvent, ils vont te demander ça. Tes placements, s'il se passe de quoi avec toi, ça va à qui après? Mm-hmm, c'est ouais. Beaucoup d'affaires à penser.
Puis les assurances collectives aussi.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de désignations de bénéficiaires dans les assurances collectives. Puis même, il y a certains placements là-dedans qui sont ce qu'on appelle des fonds distincts, qui techniquement sont des produits d'assurance avec une désignation de bénéficiaire. Fait que we're checker ça... une fois par année à peu près. Puis on s'entend
ou à chaque changement de conjoint.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui nous demande sur le Twitch, est-ce que tu peux te filmer en dictant tes legs ou c'est vraiment un papier? Techniquement, si tu laisses une vidéo derrière qui dit quoi va à qui, ça, est-ce que ça peut être légalement...
Écoute, je pense que ça pourrait passer, ça pourrait répondre peut-être dans une certaine définition de holographe.
Mettez pas de filtre, juste prenez pas de chance, ouais. Là, la face de Minou ou quelque chose.
Mais tu sais, l'affaire avec les testaments non notariés, c'est que oui, ça peut avoir une valeur légale, mais tu lances ça dans l'univers quelque part.
T'es jamais sûr.
T'es vrai, jamais, tu sais, nous on a l'obligation de dire, mettons, OK, tu peux faire un testament devant témoin, tu peux faire un testament holographe, mais jamais, jamais, je ferai la recommandation de faire ça.
OK.
La recommandation, c'est toujours tu le fais notarié.
L'impôt passe-tu sur l'héritage avant toi?
Oui. Tu sais, ce que les bénéficiaires, ce que les héritiers reçoivent, là, mettons que toi, Denis, tu meurs, puis c'est Véro, Audrey, puis moi, les héritiers, mm-hmm. là.
J'étais chaud ce journée-là.
Ouais,
c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça.
Toutes les dettes vont se payer. Puis nous, ce qu'on va recevoir, là, c'est le net là, à okay. la fin de tout ça. Là. Fait okay. que s'il reste, je sais pas, 200 000 à la fin de tout ça, puis on est 33, ben on va avoir à peu près le tiers de ça chacun. Mais tu sais, ce que les héritiers reçoivent, là, dis-toi que le versement aux héritiers, c'est comme la dernière étape. Là. Tout est payé, tout est réglé, la vie est belle, puis là, on reçoit le chèque.
Si t'es criblé de dettes, puis mm-hmm. que t'aimes ta famille, c'est quoi le meilleur service que tu peux leur rendre?
Leur écrire une lettre de « prends pas ma succession ».
Si t'es criblé de dettes, puis t'aimes ta famille, ce serait... Hey, je sais pas, honnêtement.
Paye parce que normalement,
t'sais, traditionnellement, si tu fais un testament, puis tu veux une succession, normalement, tu veux léguer quelque chose, mais si tu te rends compte, à un moment donné, que tout ce que tu lègues, c'est de la merde ou des ennuis, ça doit arriver, ça, quand même?
Ça arrive, mais pour vrai, des gens qui ont une valeur... quand tu regardes la valeur nette de quelqu'un, là, mm-hmm. fait que tout ce que tu possèdes versus ce que tu dois, c'est assez rare des gens qui ont une valeur nette négative. Parce que mettons que tu t'endettes en malade pour t'acheter un troc pour ta compagnie, mm-hmm. bien, généralement, ce troc-là, il va quand même avoir une valeur puis tu es capable de rembourser la dette en le vendant. Généralement. C'est pas mm-hmm. universellement vrai, là, mais c'est d'en être conscient, pas vrai. Là, parce que peut-être que le portrait a l'air rose aujourd'hui, là, mais ça se peut que ce soit pas le cas dans 5-10 ans. Là.
Et à l'autre bout du spectre, si toi, tu as des dettes et que tu reçois un héritage, tu peux-tu partir avec au Bahamas puis tu revois plus jamais personne?
Bien, un héritage, c'est non imposable au Québec. Là. Mettons que, justement, on reprend le même exemple, là, on reçoit chacun 100 000 $ bien, ça ne s'ajoute pas à notre revenu. Revenu Québec ne passe pas là-dessus. Cependant, mettons, je parle souvent de ma famille, moi qui est en insolvabilité, mm-hmm. mettons que tu es dans une situation où tu es un failli non libéré ou okay. genre d'affaire-là, puis tu reçois 500 000 de ta tante Ginette qui est décédée, puis elle t'aimait bien gros, ce montant-là pourrait être utilisé par les créanciers pour...
Avant toi.
Ouais.
OK.
C'est pas encore là, il y a des subtilités, là, mais si tu es vraiment dans une situation d'insolvabilité, là, un héritage, ben, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ça paye tes dettes, là, mais t'auras pas de tout.
Est-ce qu'une solution de testament en ligne comme Willful est une bonne alternative? On se cachera pas que le testament notarié, c'est quand même cher pour plusieurs.
Bien, il y a des plateformes en ligne, puis là, je vais pas faire le plug gratis parce que faut les payer, les plugs.
Mais ça arrive, hein? Mais, you know the business.
Ouais. Puis, parce que moi, j'envoie des clients là-bas, puis j'ai même pas de split là-dessus, je ne m'ai pas payé là-dessus, mais je trouve que c'est une belle plateforme, là. Écrivez « testament notarié » en ligne, là, puis ça sort assez facilement. Là.
Okay.
C'est à peu près... cette plateforme-là va comme te faire le frame, juste pour avoir les bonnes phrases légales. Puis après ça, toi, tu vas « fill in the blanks ». Fait que, OK, ben, je veux qu'il arrive telle affaire avec ma maison, mon chalet, mon char, mm-hmm. voilà, peu importe. Puis tu peux le faire devant témoin, ça va être comme 99$. Puis notarié, ça va être 350$. Fait que ouais. Ça veut dire qu'il y a un notaire qui va repasser dessus. Encore là, c'est pas l'idéal. mais c'est mieux que rien.
Mm-hmm. Ah, puis mine de rien, pour ta succession, d'avoir un testament bien fait, j'imagine que ça facilite les choses aussi. Là.
Bien, c'est le même principe que l'assurance tantôt. Là. Dites-vous que quand vous le faites devant le notaire, là, ça s'en va dans la voûte du notaire. Puis ça, c'est impossible qu'il soit perdu, mm-hmm. il est enregistré. Un testament devant témoin. Mettons, moi, là, je prends un exemple, puis je n'ai fait un devant témoin, ce qui n'est même pas la recommandation, mais j'étais chive à ce moment-là. Fait que,
c'était avant que tu sois dans la job actuelle?
Non, c'était au début. Tu sais, je faisais pas grand-chose. J'ai fait ça signer par deux de mes chums. Okay. On est arrivé à un moment donné, je suis comme, je signais ça, là. Je ne posais pas de questions. Et là, ils ont lu ça vite, puis ils ont signé. Fait que tu sais, là, ils signaient devant témoin. Dans 25 ans, ça ne révèle plus. Là.
C'est sûr.
Si je n'ai pas dit à qui que ce soit, ce document-là, il est où? Il n'existe pas, tu sais. Le document, il n'existe pas si personne ne peut le trouver.
Toi, tu le sais, puis tu es parti avec ton secret, puis les deux autres, ça fait 25 ans que vous n'êtes pas jasés, puis ils n'en ont aucune idée, c'est où, là?
Ben, c'est ça.
Ah, OK, ouais.
Techniquement, ça a une valeur légale, mais mm-hmm. ça n'en a pas si personne sait où. Fait que c'est pour ça que de le faire notarier, on s'entend, là, c'est un 2000$ qui fait chier, là.
Oui.
Ça fait chier tout le monde, là. Mais c'est une bonne passe à faire à son soi-même du futur.
J'ai une question qui va tellement avoir l'air niaiseuse, là. Mais tu sais, là, on a parlé de plein d'affaires puis plein de termes. Puis là, si tout le monde meurt autour de toi, là, ce qu'il faut que tu fasses, puis tout, puis tout.
C'est un peu déprimant, hein?
Non, mais c'est parce que je me dis, mettons, demain matin, là, mon chum meurt. Ou peu importe, là, c'est moi qui dois m'occuper de... Vers qui je me tourne en premier? Google, genre, vers où je commence? Tu sais, je vais-tu voir un planificateur financier? Je vais-tu voir un notaire? Je vais-tu... Ben, c'est quoi la première étape, la première chose que je fais?
Si tu sais même pas, si tu sais même pas s'il y a un testament, mettons.
Non, mais c'est ça, tu sais, ouais. Mettons, demain, je
un
sais
accident,
pas, là.
Whatever.
Oui, exact. Ouais. Je dirais que j'essaie d'y penser, puis je suis comme, j'ai aucune idée où je vais.
C'est pas une mauvaise question.
Ben, c'est là où... Puis là, je vais prêcher pour ma paroisse. Puis on a déjà fait une chronique là-dessus, là. Tu sais, les conseillers financiers au Québec, là, il y en a à peu près 65 000. Des planificateurs financiers, il y en a 5 000. La distinction entre les deux, là, brag. La distinction entre les deux, c'est le planificateur financier, oui, il peut faire des placements comme tout le monde, il peut faire de l'assurance comme tout le monde. Par contre, lui, il est certifié pour la succession. Il est certifié pour
les aspects légaux. Fait qu'il devient un partner à ce moment-là.
Il va probablement pas régler la succession de A à Z, mais il est capable de répondre à tes questions.
Tu peux l'appeler en panique, en broyant, puis il va te diriger.
Oui, exactement. Puis je veux pas dire que les autres ont aucune connaissance là-dessus, ce serait pas vrai. Mais
c'est la certification qui vient
avec. Avec un planificateur financier, tu as la certitude qu'il y a un organisme de réglementation provinciale qui a dit « Hey, cette personne-là est capable de donner des conseils au niveau successoral, au niveau des aspects légaux, etc. »
Alex Leblond, planificateur financier, merci.
Brag.
Il est content d'être allé à l'école.
Mais je comprends que même quand tu essaies de t'occuper de tes affaires, il reste beaucoup de zones grises. Puis quand tout est fait dans le respect puis l'entente, ça donne une chance. Là. Mais autrement, pour l'avoir déjà vécu de proche, là, voir une famille,